ringa battere nel mio fettere. Mesgebe calato tzeta bainuri. Yitzeta andagete without tekishi. Yitzeta andagete without tekishi. Vejeme na menu, beli bianchi. Vejeme na menu, beli bianchi. Yemete ramedo, nete me chachi. Achere tizita, alere se bachi. Estiao soni. Estiao sogni le nite nale bialla ciu. Belle cire bognale tante cite intugnale. Le lite ye metane in quel fine sagnale. Te la tite zitane man se astrignale.
Radio Libertaire 89.4, voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. L'émission d'aujourd'hui sera donc consacrée à un troisième volet sur la série, enfin, par rapport à la série d'articles que nous vous avions proposé à partir de la revue du syndicat des psychiatres des hôpitaux, SPH, ancien syndicat unique des psychiatres des hôpitaux. Ce numéro de l'information psychiatrique qui porte sur le déficit et les inhibitions et comporte une étude sur une déchronicisation pour un patient longuement suivi sur l'ASM13, l'association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris. Alors, à noter que la question d'une déchronicisation des patients longuement institutionnalisés et de la mise à effet de programmes de réadaptation comme de réhabilitation psychosociale s'est posée dûment à partir de la désinstitutionnalisation psychiatrique. La désinstitutionnalisation qui s'amorce avec l'ouverture des institutions psychiatriques au début des années 1970 donc ce qu'on appelle un peu aussi le mouvement d'antipsychiatrie. Mais la politique de fermeture systématique des lits en psychiatrie démarre avec la loi du 27 juin 1990. Sur Paris, on a constaté la mise à effet de cette politique de désinstitutionnalisation avec l'ouverture en 1998 de la clinique Rémy de Gourmont dans le 19e arrondissement, établissement dépendant du groupe psychiatrique Maison Blanche. Les psychiatres, des rédacteurs de ces quatre articles, ont été des praticiens de l'ASM-13. Et on va présenter l'article que nous allons lire aujourd'hui. Bernard Audier et Agnès Mercier décrivent le parcours de vie et de soins sur plus de 20 ans d'un sujet. Alors ils disent sujet, hein, parce que c'est le protocole soignant qui parle d'un sujet. Hein, chez qui coexiste un sujet chez qui coexiste de façon intrigante, capacités intellectuelles intactes, vivacité dans l'échange et choix d'une existence restreinte. Son traitement, longtemps chaotique, a fini par s'organiser à l'hôpital de jour. Quelle est l'action spécifique d'un traitement en hôpital de jour pour les malades psychotiques dont la symptomatologie négative d'allure déficitaire limite la portée des actions de réhabilitation? Question difficile mais importante à une époque où le procès en chronicisation de l'hôpital de jour n'est pas refermé. Je passe à la lecture directement de cet article de Bernard Audier et de Agnès Mercier. Le feu sous la cendre, les paradoxes cliniques de l'allure déficitaire à propos d'un cas de psychose chronique suivi plus de 20 ans. Un cas, c'est aussi un terme qui fait partie du vocabulaire du protocole soignant. Alors, Agnès Mercier est psychiatre à l'association, est membre de l'association Santé Mentale du 13e, ASM-13, et Bernard Audier est lui aussi psychiatre et membre de l'association Santé Mentale du 13e, ASM-13. Monsieur B est un patient schizophrène paranoïde de 67 ans, dont la symptomatologie a été surtout déficitaire entre 32 et 57 ans. Son parcours de soins est détaillé en suivant les grandes étapes de sa maladie. Sa biographie est reconstituée au fil de son traitement avec son aide. Les ressources de la psychopathologie et des psychoses sont mobilisées pour essayer de rendre compte d'un certain nombre d'aspects cliniques et de l'allure évolutive de ces troubles. Histoire du cas, histoire des troubles et parcours de soins. Tentative de suicide à l'adolescence, soins, études, départ de sa famille. L'histoire des troubles de Monsieur B commence avant son premier épisode psychiatrique. Il se décrit comme un enfant triste, n'invitant jamais d'amis chez lui, et si dans le cadre du collège il a des copains, son admission dans un lycée loin de chez lui et huppé lui fait éprouver le sentiment de ne pas être à sa place. Au fil de son traitement, il détaillera un mouvement dépressif passé inaperçu dans sa préadolescence. « J'ai arrêté de boire, de manger, je voulais mourir. » Il semble que sa mère ait perçu plus tard sa dépression, mais quand elle lui annonce qu'elle a pris rendez-vous pour lui chez un généraliste, il en conçoit de l'agressivité contre elle. Elle s'est défaussée. Bon en maths en terminale, il obtient son bac C à 16 ans et est admis en classe préparatoire. En maths sup, il constate qu'il n'est pas si bon que ça. En maths spé, j'en avais marre, dit-il. Il avale alors les tranquillisants de sa mère et cette TS, tentative de suicide, dont il dira « C'est le déclin du roi, la dépression » le conduit à une première consultation dans un CHU d'où il sera admis dans une clinique psychiatrique soins-études. Là, il bénéficie d'une palette de traitements psychothérapiques, psychothérapie d'inspiration psychanalytique, psychodrame individuel psychanalytique et psychothérapie de groupe. Il observe dans l'après-coup que cette hospitalisation l'a séparé de sa famille. Il ne veut pas reprendre en classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs. Il entame des études à l'université et réussit un concours administratif qui lui permet d'être embauché dans une grande entreprise publique qui lui offre pour commencer 2 ans d'études universitaires dans le cadre d'un contrat de 8 ans. Il prend un logement dans lequel il s'installe. Il est adressé au CMP local. 20-32 ans, perdu de vue un nouvel équilibre. Il fréquente peu le CMP et consulte épisodiquement un psychiatre libéral. Il ne voit presque plus sa famille. Il semble avoir trouvé un certain équilibre psychique. Il développe une sociabilité nouvelle et fréquente ses collègues. Et fréquente ses collègues en dehors du travail. Il se plaint de son chef et son vécu persécutif se projette sur ses relations hiérarchiques. Son chef lui aurait dit un jour « Ils vont te tuer » à propos de ses collègues. On retrouve l'ambiguïté qui l'accompagne depuis toujours. Son chef est à la fois protecteur et persécuteur, lui inspirant de la méfiance. 32-44 ans, décompensation délirante et hospitalisation psychiatrique itérative. Il a 32 ans quand il perd sa mère. Il doit subir la même année une opération pour des calculs rénaux. Il décompense sur un mode délirant, est hospitalisé. Pendant plus de 10 ans, il va alterner hospitalisation suivie au CMP et rechute consécutive à ses arrêts de traitement. Ses hospitalisations pour syndrome délirant et hallucinatoire, permanent et floride, alternent avec des replis inquiétants à domicile dans une incurie majeure. Sic. Un traitement à l'hôpital de jour pendant 15 mois ne change rien et il est admis en foyer de post-cure pour interrompre le cycle hospitalisation-rechute. Pendant cette période, il est très souvent en arrêt de travail et ses relations avec ses collègues s'effilochent, augmentant son isolement. Il perd son père à l'âge de 38 ans, ce dont il ne fait que très rarement mention. Il dégrade son appartement, feu dans la cave, peinture sur sa porte, odeur se dégageant de son appartement, entraînant des plaintes du voisinage. Bien que restauré une première fois, son appartement est de nouveau dévasté et mis alors en vente. Ses voisins craignent alors qu'il se porte acquéreur de son appartement. Il déménage dans un arrondissement limitrophe. 44-58 ans, suivi des cousures et réhospitalisation anarchique, puis stabilisation à l'hôpital de jour à partir de la polyclinique. Voilà. Alors, anarchique, ça veut dire à l'arrache, hein, je crois, ça doit être ça. L'équipe qui l'avait en charge depuis 12 ans choisit alors de confier le patient au secteur du 13e. Le départ prochain du psychiatre qui s'occupait de lui depuis 2 ans était un argument. Il sort alors du foyer de post-cure et retourne à l'hôpital de jour en attendant d'être admis dans celui du 13e. L'un d'entre nous devient alors son psychiatre de secteur et ce pour 21 ans. Son suivi au CMP sera d'abord régulier pendant une première période de 18 mois. Ceux-ci sont consacrés à diminuer son traitement neuroleptique, à lever sa curatelle et à permettre sa reprise de travail, d'abord en mi-temps thérapeutique. Un jour, il passe déposer un mot de 3 lignes prévenant qu'il se fera suivre désormais par un psychiatre en ville. Du fait de l'absence de rendez-vous au CMP après 18h30 et vu ses nouveaux horaires de travail. En réalité, il n'a pas réussi à reprendre le travail, il est alors mis en congé de longue maladie. Puis en retraite anticipée à 47 ans. C'est seulement 4 ans plus tard qu'il accepte de monter un dossier Cotorep pour recevoir une aide financière complémentaire. Il a 52 ans quand il est hospitalisé en HO, hospitalisation d'office, après avoir agressé une patiente dans la rue sur une injonction hallucinatoire. Cette femme était habillée d'un blouson noir, elle ne voulait pas me laisser passer. Je pense que c'était Nathalie Ménigon. Je crois que ma sœur est Nathalie Ménigon. Monsieur B passe de longs mois sans sortir de l'hôpital. À la faveur des soins hospitaliers, le syndrome délirant s'amenuise, mais laisse la place à un retrait inquiétant. Après un séjour en maison de repos spécialisée, il rentre cependant chez lui. Il est épisodiquement réhospitalisé dans des contextes de rupture de traitement. Il est décrit comme très délirant à l'arrivée dans les services, puis très en retrait, sans aucun contact avec les autres patients. L'haloperidole est remplacée par des neuroleptiques atypiques, vu leur double vertu antiproductive et antidéficitaire, amisulpride puis risperidone, sans résultat notable. Pour tâcher de sortir de cette ornière, il est transféré à sa sortie à la polyclinique près de chez lui et de l'hôpital de jour du 13e arrondissement. Il va bénéficier de l'accessibilité de la polyclinique, de la disponibilité des soignants et de la souplesse de ce petit établissement qui combine centre d'accueil et de crise, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, accueil à temps partiel structuré et hospitalisation libre, et où la même équipe est responsable de l'ensemble. Il use pleinement de cette palette et semble trouver là, ou retrouver peut-être, l'objet d'étayage qui lui manquait depuis toujours. C'est ainsi qu'il se présente à toute heure, demandant à être hospitalisé, mais y renonçant si on lui propose de le recevoir le lendemain, etc. À partir de la polyclinique, il est régulièrement accompagné dans son logement très dégradé, détérioration, saleté, accumulation d'objets, afin de le nettoyer et d'y faire un tri. Sa réintégration à l'hôpital de jour, qu'il connaît déjà, est progressive tandis que son retour à domicile s'organise sous forme de permission puis d'une prise en charge en temps partiel. Il est admis une seconde fois à l'hôpital de jour à 53 ans alors qu'il est encore en accueil à temps partiel structuré à la polyclinique où en particulier on lui distribue quotidiennement son traitement. La progressivité de son passage de la polyclinique à l'hôpital de jour est une des leçons tirées de la brutalité de ses décrochages. D'ailleurs, il cesse à plusieurs reprises de venir à l'hôpital de jour. Vivant un envahissement hallucinatoire, il ne sort plus de chez lui. Quand l'équipe de l'HJ décide d'aller chez lui, elle a la bonne surprise d'y être accueillie comme s'il l'attendait. Quelques jours d'hospitalisation suffisent alors à rétablir la situation et son traitement en hôpital de jour peut reprendre. Il a 58 ans quand cet étayage très serré qui dure près d'un an et demi par l'hôpital de jour lui permet finalement de réintégrer tout à fait son domicile. Après 58 ans, son médecin au CMP observe l'efficacité limitée sur ses hallucinations des neuroleptiques incisifs classiques. Il suggère que lui soit prescrit de la clozapine. Il est mis sous clozapine à l'hôpital de jour, avec un assez bon résultat sur ses hallucinations. Quand des problèmes somatiques intercurrents obligeront à interrompre ce traitement, ce mieux perdurera. Depuis 7 ans, il fréquente assidûment l'hôpital. L'hôpital de jour, du lundi au vendredi, et n'est plus réhospitalisé. Mais il continue à ne pas prendre soin de son appartement et son incurie reste dérangeante. Les soignants se plaignent de l'odeur nauséabonde qu'il dégage. Il explique ne pas s'en préoccuper comme si cela ne le regardait pas. On suppose un état catastrophique de son appartement, ce qu'il reconnaît à demi-mot, mais refuse toute proposition d'aide ménagère qui lui semble bien trop intrusive. Une phase délicate s'engage qui exige tact et opiniâtreté des soignants. D'autres épisodes d'incurie et de dégradation de son domicile surviendront jusqu'à ce que le maire prenne un arrêté temporaire d'expulsion de 15 jours, le temps que les équipes municipales assainissent et désinfectent son logement. Ce n'est que très progressivement que l'équipe de l'hôpital de jour réussira à tercéiser le rapport de M. B à son milieu de vie. Cette difficulté majeure à vivre en société, observée dans sa gêne avec les patients, n'a pas évolué pendant la première phase de son traitement à l'hôpital de jour. Pour questionner la place que M. B se donne dans un groupe, il lui est alors proposé de participer à une psychothérapie de groupe qui a lieu une fois par semaine au CMP. Extérieur à l'hôpital de jour, ce lieu rassurant car déjà familier permet de travailler l'idée d'un ailleurs. Il y participera un an et demi avant d'arrêter sans donner beaucoup d'explications. Depuis quelque temps, l'équipe de l'hôpital de jour l'engage à diffracter ses investissements et l'accompagne au CATTP avec la visée d'une réduction prudente de sa présence à l'HJ. Biographie. Mentionnons pour la reconstitution diachronique de la biographie de ce patient l'intérêt des comptes rendus de synthèse et des enregistrements des 3 entretiens à l'hôpital de jour de ce patient avec 2 psychiatres, dont une également psychanalyste. Enfance et préadolescence. Monsieur B naît à Paris en 1956 dans une famille modeste du 14e arrondissement, de l'union d'un père français et dessinateur industriel et d'une mère dont la famille juive est originaire d'Europe de l'Est, mère au foyer qui aurait elle aussi été traitée pour des troubles psychiques. Sa sœur naît 2 ans plus tard. Des relations précoces, nous ne savons rien, n'ayant pu interroger ses parents décédés quand nous le rencontrons. Le patient relate une histoire infantile marquée par une mère surprotectrice, je cite « elle ne me lâchait jamais » et un père qualifié d'absent et de violent, contre lequel ses ressentiments sont encore vifs et qui occupent une place importante dans ses hallucinations. De son enfance, il ne conserve de bons souvenirs que jusqu'à 7-8 ans. On me lisait des histoires, mais se souvient aussi de sa solitude et de son isolement d'enfant élevé par la télé. Il décrit un gommage générationnel. Mon père se confiait à moi ce qui me coupait de la possibilité de lui parler à lui, enfance un peu volée, et un climat incestuel. Ma sœur avait les faveurs de mon père. Mon père me faisait la nique, à moi, son fils unique. Ce vif ressentiment n'empêche pas un mouvement d'identification positif, mais aussi négatif à ce père haï. Je suis un peu parano, mon père était un peu parano. Si j'avais une femme, dit-il, je poursuivrais mes rêves de domination masculine. Mon père, c'est ça qui me bloque. Est-ce que je dois moi aussi épouser n'importe qui, lui faire des enfants et boire ? Il décrit une famille refermée sur elle-même, ne recevant personne, ne partant pas en vacances. L'histoire de ses parents est brossée grossièrement. Mes parents ont souffert pendant la guerre. Mon père, pour se dérober au STO, est parti en Bretagne travailler dans les champs. Ma mère a été cachée. Je n'ai jamais vu mes grands-parents. Je crois savoir que mon grand-père maternel aurait souffert de troubles psychiatriques. Il explique penser souvent « mon père n'est pas mon père » et en doute toujours aujourd'hui. Ses parents deviennent alors « ces gens-là, fondamentalement mauvais, ils m'ont séquestré ». Il a peu de souvenirs de sa sœur, mais était jaloux d'elle qui était la préférée du père. Elle est aujourd'hui à l'origine d'un syndrome d'influence qui se réactive volontiers à son évocation. Elle est celle qui le copie comme un petit singe, dit-il, pour ne pas dire qui le jalouse. avec qui M. B ne veut plus rien avoir à faire malgré les tentatives de sa sœur de renouer le contact. La crainte semble accompagner ces évocations d'elle. Elle figure dans ses hallucinations les plus menaçantes, dont celle qui a conduit à sa dernière HO, hospitalisation d'office. L'entrée dans la psychose, repli et désinvestissement. Ce qui caractérise ses évocations de son passé, c'est la façon dont il étoffe avec l'âge, au fil de son traitement, une version persécutée de ses vécus d'enfant et d'adolescent. Faire la part d'un éventuel remaniement des souvenirs et d'une souffrance d'enfant qui ferait regretter l'absence de soins psy n'est pas simple. Enfant, il aurait réprimé l'expression de sa souffrance, et sage et bon élève, celle-ci serait passée inaperçue. Pourtant, il raconte qu'à 13 ans, je cite, « j'ai arrêté de manger, de boire et de parler, je voulais mourir ». Il reste ambigu sur le caractère subi ou choisi de ses souffrances. Ainsi, M. B. relate inlassablement un souvenir qui vient faire écran. Il mange seul dans la cuisine alors que ses parents et sa sœur prennent leur repas dans la salle à manger. Selon ses interlocuteurs, ses explications changent. Tantôt, la mère l'y oblige pour l'empêcher de grossir, tantôt son père lui fait la nique, le contraignant à rester seul dans la cuisine. Cela aurait duré plusieurs années et aurait commencé quand il avait 13 ans. Ces reconstructions fragiles et changeantes laissent deviner la survenue brutale de son repli, illustrée par cette scène de la cuisine à l'âge de 13-14 ans, c'est-à-dire à l'entrée dans la préadolescence. La répétition lancinante dans son discours de cette scène de la vie quotidienne, à la fois mythique et traumatique, est peut-être une trace de ce que les psychanalystes ont appelé la catastrophe psychotique. Il dit avoir ressenti une rupture assez brutale et décrit les années de solitude qui ont suivi. Je cite, « De 13-14 ans à 18 ans, ma vie que je me suis construite, c'est sur une base solitaire », évoquant de façon poétique son escalade dans l'emmurement et « j'ai passé de longues années à ne rien dire en famille, j'ai arrêté de parler ». Il est un élève brillant au collège puis au lycée. Son discours montre, par contre, un désinvestissement massif du monde relationnel, en particulier à partir de son admission au lycée. Au lycée, je restais seul dans mon coin. Il était sur la défensive. Quand je suis allé au lycée, j'ai arrêté de leur parler, c'était ma seule défense. Il explique comment il a surinvesti la sphère intellectuelle où il a trouvé refuge. J'avais trouvé refuge dans les maths, les règles sont claires, codifiées, il y a des lois. Solution qui s'origine peut-être dans son propos « Mon père se déclarait anarchiste, comment peut-on être père et anarchiste ?» Brossant de son père un tableau au bas mot de père archaïque. Et sa vie durant, il va rechercher un cadre contraignant aux règles claires. Ce seront les maths, le travail et plus tard l'hôpital de jour où, dit-il, les soignants sont encadrés, comme s'il fallait cela pour diminuer le danger lié à l'autre. 20-32 ans, âge adulte est rentré dans le monde du travail. Le monde du travail, à sa sortie de soins et études, fonctionne un temps comme un cadre structuré et structurant. C'est d'ailleurs parmi ses collègues qu'il se constitue un cercle d'amis avec lesquels il pratique plusieurs sports. Il aime l'aviron, où sont exigés de lui un effort musculaire et un comportement mécanique excluant toute subjectivité. Il pratique aussi la VARAP, activité qu'il apprécie et où il se fait des amis. C'est aussi une activité qui exige force musculaire et maîtrise de soi. Est-ce une réalisation symbolique de son sentiment d'adolescent d'être un surhomme ? Ces voies d'escalade seraient-elles des voies de la régression suivies par les personnalités ochnophiles décrites par Michael Balint, dépendantes des objets, n'ayant aucune liberté par rapport à leur objet d'attachement et ayant un rapport au monde dominé par la proximité physique et le toucher ? Ah oui, on explore vraiment les fonds des théoriques de la psychanalyse. Et je poursuis. 32, 57 ans. La mort de sa mère l'impacte, bien qu'à ce moment-là, il ait pratiquement coupé les ponts avec sa famille. Il explique qu'il avait peur de tomber dans les pattes de son père. Ma mère est morte quand j'avais 32 ans. Ensuite, je me suis replié, je voulais éviter mon père. L'enterrement n'allait-il pas obligé à revoir son père et sa sœur ? Deux êtres qu'il part de noirceur et qui suscitent sa méfiance, son sentiment de persécution englobe la médecine. Atteint de lithiase rénale, il décrit le lithotripteur comme une machine diabolique et l'attente de ce traitement comme l'ayant forcé à un repos qui lui aurait ôté toute force, l'aurait rendu incapable de continuer la varappe, l'éloignant de ses amis pratiquants. Il décompense alors sur un mode persécutif et hallucinatoire. Commence une série d'hospitalisations, parfois d'internement, entre deux périodes de solitude à domicile. Restant employé chez France Télécom, malgré ses nombreux arrêts et maladies, il est placé en mi-temps thérapeutique. Il se plaint d'être progressivement orienté vers des postes subalternes, courrier, photocopie. Le travail constitue un terreau fertile en idées de persécution centrées sur ses collègues et son chef de bureau, mais constitue néanmoins son unique lieu de socialisation. Il est en arrêt longue maladie à 42 ans et se retrouve, malgré ses velléités, dans l'impossibilité concrète de reprendre ce travail. Il est placé en retraite anticipée à l'âge de 45 ans, ce qu'il vit comme une mise au placard, clivant le monde en deux entités distinctes, les actifs et les inactifs. À son domicile, il ne fait rien sinon écouter la radio, probablement pour couvrir ses voix et fumer. Un jour, il agresse sans raison une femme dans la rue. Son hospitalisation d'office contribuera à une organisation plus rigide de son traitement et à une nouvelle admission à l'hôpital de jour où il est aujourd'hui encore en traitement. Si un an plus tard, il a définitivement regagné son domicile, il hallucine et délire en permanence. Il reste en retrait et son contact est distant et énigmatique, sauf dans les ateliers. Il remarque « Dès que je sors d'activité, je m'assois n'importe où et je me replie. » Les différents récits qu'il fait de sa vie sont toujours ponctués par l'expression d'un sentiment d'exclusion au sein de sa famille, puis de son cercle de copains du collège, puis au travail et enfin dans la société, par son statut de retraité. Mais comment qualifier la façon dont, dans son repli, il repousse le monde ? Après 58 ans. On constate une stabilisation de son état clinique. Il n'a pas décompensé depuis 10 ans. Il prend un traitement neuroleptique qu'il n'arrête plus à la moindre occasion et fréquente assidûment un lieu de soins dont il est même devenu l'un des piliers. Il se plaint de l'isolement et de la vacuité de son existence. Il continue à entendre une voix qu'il pense reconnaître comme étant celle de son père et qui le persécute à la façon d'un surmoi sévère, infatigable. Il continue à éviter activement les tentatives de sa sœur pour rétablir le contact. Son logement n'est toujours pas le havre de paix qu'il devrait accueillir son repos. Il n'y voit pas beaucoup plus clair dans les forces obscures qui le tourmentent. De quoi regretter qu'il n'ait pas été, avant l'engagement de son adolescence sur une voie dramatique, l'objet d'une attention avertie. Analyse clinique. Avant de s'engager dans cette dans la description sémiologique de Monsieur B, nous allons faire une pause avec une chanson de Armand Ferry. En tôle.
Chaque petit recoin d'amour enfermé à double tour comme des enfants brimés, la punition pour pour seul. Liberté. Les barreaux où sont jetés nos cœurs. On a appris à survivre, nourris de peur. Et les hommes pleurent encore, ils pleurent, et leur talent meurt encore, ils meurent. Même si chaque pierre nouvelle nous plonge dans la détresse, cette cage étroite nous oppresse, nous empêche d'inventer un monde d'allégresse. Je vis en tôle, en tôle. Le vent des bruits sourds, déportés, le soleil rouge asséché, nos tendres aînés ont laissé la porte fermée. Les barreaux où sont jetés nos cœurs. On a appris à survivre, nourris de peur. Et les hommes pleurent encore, ils pleurent, et leur talent meurt encore, ils meurent. Encore paré d'orgueil et d'inconscience, dans des cages immenses de silence, vous élevez des enfants pour la potence. Nous sommes en taux, en taux, en taux. Choisirons-nous d'être briques de parures et illusions, ou libres là sans raison?
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, l'émission critique de la psychiatrie, avec la lecture aujourd'hui d'un article de l'Information psychiatrique de janvier 2024, donc le journal, la revue du syndicat des psychiatres. Un article intitulé « Le feu sous la cendre, les paradoxes cliniques de l'allure déficitaire » à propos d'un cas de psychose chronique suivi plus de 20 ans, rédigé par Agnès Mercier et Bernard Audier, qui sont tous les deux psychiatres à l'ASM, Association Santé Mentale, du 13e. Et donc, nous étions là, page 9, 10, description sémiologique. Monsieur B a donc 59 ans quand l'une d'entre nous le rencontre. C'est un homme petit, trapu et rond, son regard fixe et brillant est caché par d'épais carreaux de lunettes sales. Il est un peu dégarni, ses quelques cheveux restants grisonnent. Sa présentation est négligée pour ne pas dire incurique. On imagine aisément un appartement à son image. Il porte régulièrement le même t-shirt, malgré les sollicitations de son infirmière référente qui s'échine à le lui faire changer. Une fois établi, le contact est plutôt bon, mais l'impression générale est la syntonie, voire l'indifférence. Monsieur B maintient l'autre à distance, il est presque intimidant. Il empêche par exemple qu'on lui fasse remarquer son incurie, seule son infirmière référente qui le connaît depuis des années se le permet, ce que pourtant les soignants réussissent à faire avec les autres patients. Sa psychomotricité est particulière, les gestes et la mimique sont pauvres, la démarche est traînante et comme automatique. Il se cale dans son siège et se rapetisse en avançant son bassin à l'horizontale, sans carapassonnant de son fauteuil. Il déambule dans l'hôpital de jour, marchant d'un bloc, d'un pas décidé. Son être-là est spectral quand il déambule ainsi, sans but apparent, dans les couloirs de l'hôpital de jour, évoquant ses sujets en proie à une hallucination négative, croisant sans les voir patients et soignants. Chez M. B, le langage et la pensée logique sont préservés. Parfois, le sens global de la phrase est atteint par une utilisation détournée des mots. Mes parents m'ont lâché vers 13-14 ans du poil aux pattes, une rupture assez brutale. Globalement, le discours spontané est riche, donnant l'impression d'une activité associative préservée. Mais le discours tourne toujours autour des mêmes thèmes, répétitions stérilisantes. La sphère affective est massivement atteinte. Le patient manifeste un émoussement affectif et une grande indifférence. Il apparaît toujours d'humeur morose, le ton est monocorde et le discours désaffectivé. Ses intérêts sont très restreints. Les relations familiales sont totalement désinvesties. On ne lui connaît aucune relation amicale. Il semble ne s'intéresser à rien sinon à lui-même. Le dédain ou l'ironie mordante dont il peut faire preuve constitue un des aspects d'un négativisme ou contrarisme. Sur le plan comportemental, on est frappé par son inertie, son apragmatisme et sa grande passivité, aggravée par une avolition et une anergie majeure. Son existence est étriquée et très ritualisée. Monsieur B est tout à fait isolé, en retrait. Sur le plan cognitif, on note bien sûr une altération de la cognition sociale et du système motivationnel. En revanche, les fonctions exécutives apparaissent globalement préservées lorsqu'elles sont stimulées. Approche syndromique. La dimension déficitaire est au premier plan, avec un repli important, un apragmatisme majeur confinant à l'incurie et un émoussement affectif. Monsieur B possède tous les symptômes négatifs dits primaires qui pourraient lui valoir le diagnostic de syndrome déficitaire selon Carpenter. Appauvrissement des affects, gamme émotionnelle réduite, pauvreté du discours, restriction des intérêts, intentionnalité réduite, diminution de l'élan social. Alors, on ne dit pas autisme. C'est bien la note 8, oui. Parce que, à la note qui correspond à la fin de cette phrase, il est écrit « Autisme est un néologisme forgé par Bleuler, par condensation d'auto-érotisme ». Autisme. Voilà. Comment décrire l'oscillation de Monsieur B entre repli et délire ? Bleuler invente l'autisme. Ah bah voilà, c'est là. Pour rendre compte de la perturbation du rapport du schizophrène au monde extérieur qui lui devient hostile. Le schizophrène se replie pour échapper aux stimuli extérieurs déplaisants et élabore un monde autistique, étrange et impénétrable. Ce monde intérieur n'est pas déserté chez M. B. Au contraire, il est le théâtre d'un dialogue hallucinatoire ininterrompu, d'où le qualificatif d'autisme riche. La dimension positive est présente par les recrudescences délirantes paranoïdes auxquelles il est parfois sujet. Un parasitage hallucinatoire permanent est très probablement présent, mais n'entrave pas actuellement son fonctionnement. La dimension de désorganisation est peu représentée en dehors des moments de désordre comportemental quand il est sous l'effet d'angoisses persécutives délabrantes et à son domicile où il est seul. Seule une complication somatique l'a conduit à réduire une tabagie sévère, c'est moins témoin d'une dérivation toxique de sa pulsionnalité. Repérage diagnostic. Le diagnostic de schizophrénie chez ce patient ne fait aucun doute, quelle que soit la classification utilisée. Après des lustres de traitement, les signes de désorganisation et les symptômes productifs se sont estompés au profit d'un profil général à base de symptômes négatifs, ce qui nous semble conduire au diagnostic de schizophrénie résiduelle. À noter qu'au fil de ces nombreuses phases de traitement, deux diagnostics ne lui ont été portés qu'une fois. Hébéphrénie a probablement connoté l'intensité du syndrome négatif et peut-être un pessimisme thérapeutique du moment, tandis que psychose hallucinatoire chronique a souligné dans une autre phase la coexistence d'un syndrome hallucinatoire prédominant et d'une adaptation convenable à la réalité de l'hôpital de jour. Évolution sous traitement pharmacologique. Monsieur B a reçu pendant des années des traitements neuroleptiques de première génération, haloperidol et clopentixol, à visée antiproductive. S'ils ont notamment amoindri le délire, ils ne semblent pas avoir eu de grands effets sur les symptômes négatifs. Les effets du traitement par clozapine interrogent l'existence de ces symptômes négatifs primaires. Quand on interroge M. B, il rapporte surtout un apaisement anxieux sous clozapine. Ainsi pouvons-nous supposer que la levée de la sidération anxieuse a provoqué une diminution de l'intensité des symptômes négatifs. Soins relationnels. En entreprise, il s'anime un peu. Son regard brillant se fait plus pétillant. Il a un timbre de voix agréable, mais le ton est monocorde comme désaffectivé. Toutefois, il trouve un plaisir manifeste à la joute verbale avec le médecin. Il se raconte volontiers et fait même preuve d'une certaine réflexivité quand il se compare à Sisyphe poussant son rocher pour mieux redescendre, voué à une répétition sans fin. Mais les entretiens se répètent et se ressemblent malgré le plaisir manifeste qu'il prend à ces échanges et en dépit de son éloquence. Il incrimine volontiers sa mère dans la genèse de ses difficultés, mère qui aurait fauté de son vivant en l'obligeant à manger seul, fameuse scène de la cuisine, et aussi en mourant, son décès l'ayant plongé définitivement dans la maladie. Il nous donne là une des clés de son mode de relation objectale. Il n'est bien ni avec ni sans l'objet. Il conserve une activité délirante, enquistée, centrée sur sa sœur. Cette persécutrice pleine de soi-disant bonnes intentions, comme il le dit, autrefois vaste syndrome d'influence, aujourd'hui délire, se réactivant volontiers à l'évocation de cette dernière. L'énigmatique roman familial de M. B, l'obscurité de sa décompensation et ses capacités intellectuelles ont contraint à plusieurs reprises à des indications de psychothérapie individuelle, de groupe et psychodramatique en soins et études. Individuel pour la première équipe de psychiatrie adulte qui s'est occupée de lui, deux groupes par l'équipe actuelle. Aucune de ces psychothérapies n'a duré plus d'un an et demi. La pétence de M. B pour ses traitements n'a pas diminué. « Je veux bien essayer », répondait-il avant le dernier. Il avait précisé « Mais ce n'est pas avec les soignants et les thérapeutes que j'ai du mal à parler, c'est avec les gens, les inconnus. C'est ça qu'il faudrait changer. Spécificité de l'action thérapeutique de l'hôpital de jour dans les évolutions déficitaires. Il investit les ateliers et s'y montre d'un bon niveau dans les temps interstitiels. En revanche, il reste seul et n'a que très peu de contact avec les autres patients. Il reste en retrait et son contact est distant et énigmatique. Il le remarque. Dès que je sors d'activité, je m'assois n'importe où et je me replie. On lui propose de venir tous les jours pour lutter davantage contre son isolement, se dotant que les ateliers semblent être le seul endroit où il s'anime un peu. Mais on remarque rapidement qu'il fréquente la quasi-totalité des ateliers. Cuisine, écriture, théâtre, sortie culturelle, remédiation cognitive, écoute musicale, mosaïque. Il y montre de bonnes ressources et de grandes facilités comparées aux autres patients. Cette aisance naturelle coexiste avec une politique du moindre effort. Il est très passif et ne se mobilise que sur sollicitation et parfois avec une ironie agaçante. Les avis sont partagés sur la qualité de sa participation aux ateliers. Il a toujours l'air d'être moins malade que les autres, mais il fait toujours en sorte qu'on ne puisse pas lui dire les choses en face, disent quelques soignants. D'autres soulignent qu'il est moteur dans les ateliers et qu'il y est toujours bienvenu. Cette surconsommation d'activité interroge. On lui propose de fréquenter le CATTP un jour par semaine pour le décoller un peu de l'hôpital de jour. Il refuse et n'acceptera qu'un an plus tard. Il dit apprécier les activités, mais donne l'impression de n'y venir que pour occuper son temps et ne pas penser. Il ne partage pas les buts des ateliers. Il néglige, par exemple, le transfert des acquis. En atelier cuisine, il prépare et mange ce qu'il a fait sur place, mais ne ramène jamais rien chez lui et ne tente pas d'y refaire le plat, objectif pourtant affiché de l'atelier. En IPT, il apprend à se repérer dans Paris, mais ne sort pas de chez lui le week-end pour mettre à profit ses apprentissages. Alors l'IPT, c'est le programme IPT ou programme interactif de thérapie psychologique, est un outil qui associe remédiation cognitive et entraînement des compétences sociales. En trait à trait, atelier de mise en lien dans lequel on demande aux participants de reprendre le dessin d'un autre pour le continuer, il dessine toujours quelque chose qui n'a aucun lien avec le reste. Au mieux, il ne fait aucun effort pour suivre la consigne. Au pire, il fait cela pour agacer. Les interrogations se multiplient. Pourquoi refuse-t-il de faire ce qu'on lui demande ? Pourquoi comprendre cette résistance ? Comment comprendre cette résistance à l'autre ? Une véritable réanimation psychique semble produite par le rôle de médiation avec la réalité offerte par l'activité, par sa valeur d'espace transitionnel, intermédiaire entre le sujet et le monde, qui permet à M. B. d'expérimenter des relations à l'autre non menaçantes. Par l'entremise de la médiation, l'objet devient moins excitant et perd sa valence antinarcissique. Peut-être autrefois son travail avait-il constitué pour lui également un espace praticable. 5 ans après son admission, l'état clinique de M. B. se dégrade. Il est de plus en plus replié et semble très angoissé, comme aux prises avec des démons intérieurs. On suspecte un envahissement hallucinatoire que le patient confirme en évoquant un cinéma intérieur fait d'un dialogue hallucinatoire ininterrompu. Sous clozapine, son état s'améliore rapidement et sensiblement. Il paraît moins entravé, se montre moins en retrait et d'un meilleur contact. Il explique se sentir moins angoissé et plus détendu dans le corps et l'esprit. Sa tête est plus claire, dit-il, et il a l'impression de ressentir de nouveau des choses. Il semble reprendre vie, mu par un nouvel élan. Il met au point plusieurs projets. Il cherche à partir en vacances, en voyage organisé, et va jusqu'à se rendre directement dans une agence de voyage, lui qui n'était pas sorti de chez lui depuis des années. Il projette aussi de reprendre le travail. On évoque une intégration en ESAT. Aucun de ces projets n'aboutit, mais leur existence signe un réinvestissement notable de son monde intérieur et du monde extérieur. En général, les lieux de soins aménagés et adaptés comme l'hôpital de jour favorisent le réinvestissement du monde dans une alternative au réinvestissement délirant. Ici, il s'agit d'un petit monde, pas le monde d'avant, un monde à sa mesure dans lequel il évolue sereinement par ce que ce monde s'adapte constamment à ses besoins. Souffrir et Gautier ont proposé la notion d'appareil de soins pour souligner la congruence d'une telle institution soignante avec l'appareil psychique d'un patient. Ainsi, la garantie de soins constants endossée par l'équipe soignante, soins au sens du care de Winnicott, dans un cadre contenant et ritualisé, a-t-il permis à M. B. de s'intégrer dans ce néo-monde sans connaître les affres de l'angoisse que suscite chez lui la rencontre objectale. L'intensité de son inertie et de son apragmatisme, contrastant avec son charisme et une curiosité intellectuelle conservée, ont beaucoup interrogé l'équipe de soins sur la meilleure façon de le prendre en charge. Son cas a ainsi monopolisé plusieurs réunions cliniques pendant lesquelles il était d'usage de se plaindre de son incurie et du fait qu'il embolise certains ateliers qui ne semblaient plus rien lui apporter sinon le confort de leur permanence. Et pourtant, l'idée de lui proposer des changements dans son emploi du temps et ses activités soulevait toujours des réserves. C'est qu'il soulevait la question de sa place, introuvable à ses dires, que ce soit dans sa famille, au travail ou dans la société. Au point que la place occupée dans les esprits par M. B, à laquelle avaient été consacrées plusieurs synthèses, pour qui l'avis des psychiatres et psychanalystes avait été demandé plusieurs fois, est probablement son premier refuge. Psychodynamique. Insécurité ontologique, manque de confiance en soi, dépression et besoin d'étayage. Monsieur B est en difficulté et tient des propos contradictoires quand il s'agit de parler de sa mère. Il éprouve vis-à-vis d'elle des sentiments oedipiens communs, pensant qu'elle aurait dû partir vu la façon dont son mari, le père de Monsieur B, la traitait. Moins classiquement, il lui dénie tout instinct maternel. Il l'accuse de ne pas l'avoir compris. Comme s'ils étaient passés l'un à côté de l'autre. Il dira plus tard qu'il manque de confiance en lui. Ce trait dérive-t-il de son manque de confiance en sa mère? On pourrait alors craindre chez lui un manque d'amour-propre, peut-être compensé maladivement par sa mégalomanie. En tout cas, son entrée dans la psychose survient alors qu'il vient de quitter le domicile parental pour une chambre d'étudiant. Quand il attribue cette séparation à la psychiatrie, à Georges Heuer, ils m'ont ôté mes parents. Cela évoque une problématique d'inséparabilité d'avec ses parents. D'autant que le décès de sa mère, que pourtant il ne voyait pratiquement plus, est suivi d'un passage à la chronicité de sa pathologie, le conduisant à des hospitalisations répétées, souvent des internements, l'obligeant assez vite à ne plus travailler. Ambivalence et culpabilité. Si sa relation avec sa mère est marquée d'ambivalence, sa relation avec son père a une dimension passionnelle faite d'identifications positives et négatives dont il ne semble pas pouvoir se déprendre. « Enfant, j'avais réellement envie de tuer mon père », insiste-t-il. Plus tard, il dénonça un père violent avec lui. Il me donnait des gifles, mais aussi un père voulant faire copain-copain, lui disant « Je voudrais être ton ami, pas ton père », lui faisant des confidences gênantes. « Si je n'avais pas divorcé, c'est à cause de toi. » « Si je n'ai pas divorcé, c'est... » Et concluant, « Il m'a vraiment pris en otage. » Ce qui est obscur. Il dit avoir été gravement scandalisé quand, adulte allant dans sa famille, « Mon père avait pris ma chambre et mon lit, je trouve ça monstrueux. » Mais il décrit aussi une aliénation à son père qui l'expose à avoir les mêmes défauts que lui. Il explique sans conviction que les problèmes avec son père se sont résolus avec le temps, tout en expliquant qu'il pense que... Il pense « Mon père n'est pas mon père, il me ment ». Bayle explique que les parents psychotiques et états limites qui ont été exposés à des parents dont ils ne savaient pas contre quoi ceux-ci se défendaient sont entravés dans leur différenciation. Or, M. B, qui se proclame l'héritier, raconte que son père, frère cadet, a été déshérité au profit de son frère aîné. Monsieur B s'est senti happé, possédé par son père, un peu comme plus tard il se sentira vampirisé par sa sœur. Pache, dans sa théorie de l'antinarcissisme, explique que les défenses anti-objectales figurées par le retrait et le refus d'investir l'autre sont à la hauteur de la terrible attractivité de l'objet, qui a valeur antinarcissique, vécu comme engloutissant et néantisant, véritable menace pour l'intégrité narcissique. Désinvestissement. Pour M. B, l'entrée dans la maladie semble se faire de manière discrète mais brutale par un syndrome de repli majeur signant le désinvestissement massif du monde extérieur, désinvestissement qui se manifeste par une rupture dans la sphère familiale et sociale. De manière compensatoire, M. B a surinvesti la sphère intellectuelle, d'où sa réussite scolaire dans les matières, je cite, « qui obéissent à des lois », explique-t-il, comme la physique et les mathématiques. Bergeret a noté la tendance chez les schizophrènes au retour du zéro anobjectal, c'est-à-dire à un état vierge de toute excitation. À bien des égards, le repli de M. B évoque cette tentation. Son apparente dévitalisation, son inertie, la ritualisation mortifère de son existence semblent tendre vers cet état zéro, ce qui fait évoquer la pulsion de mort ou Thanatos. Rappelons que pour Green, la première manifestation de la pulsion de mort est le désinvestissement. Alors, une partie de la libido libérée à la suite du désinvestissement du monde extérieur afflue dans le moi et se met au service de la mégalomanie, tandis qu'une autre partie est réinvestie psychiquement dans la construction d'une néo-réalité délirante. La partie libre, non utilisée et non liée, se transforme alors en destructivité, désintrication pulsionnelle. La destructivité de M. B s'est exprimée de plusieurs manières aux différentes époques de sa vie avec des intensités variables. Si l'on suit le canevas proposé par Souffrir, Gautier et l'un d'entre nous, on décrit successivement l'attaque de l'objet d'étayage. Ici, faire le mort vis-à-vis de sa famille et l'attaque du corps propre. Ici, sa TS, son incurie et sa tabagie. À noter l'atténuation de cette attaque quand il arrête de fumer. Puis viennent l'attaque du lieu de vie, ici très active, mais dont l'intensité s'est atténuée ces 10 dernières années, et l'attaque des conditions matérielles d'existence. Dans son cas, le retard à vouloir bénéficier des dispositions pour handicapés. Le couple inhibition-désinhibition. Quand M. B dit « Comme son père, c'est ça qui me bloque », comme mon père, c'est ça qui me bloque. Il décrit une entrave à son processus d'identification à son père. Mais comment devenir un homme sans devenir au moins un peu comme son père ? Enfant, M. B raconte qu'il avait eu vraiment envie de tuer son père. Peut-on éprouver consciemment une pulsion parricide sans devenir fou ? Quand plus tard M. B dénie que son père soit son père, il trouve une solution délirante à une culpabilité dont il se décrit à plusieurs reprises envahi. M. B décrit aussi un climat familial incestuel. Le soin jaloux qu'il met à éviter sa sœur, de quel danger témoigne-t-il dans son existence professionnelle ? M. B nous raconte qu'il avait des mauvais rapports avec ses subordonnés. Il était inspecteur et parle des actes inconsidérés qu'il posait. Plus tard, il a commis une agression immotivée sur une inconnue en lien avec des idées délirantes qu'il se fait sur sa sœur. Ces moments de désinhibition avec passage à l'acte aux conséquences désastreuses existent en contrepoint d'une inhibition dans ses rapports sociaux et d'une aspontanéité. Son état déficitaire pourrait relever d'une inhibition généralisée. Un clivage peu fonctionnel. Le récit clinique a souligné le caractère désaffectivé du discours de M. B. Mais ce travail de répression des aspects ne libère pas la capacité de M. B d'entrer en relation avec les gens, autres patients compris. La frontière entre intérieur de l'hôpital de jour et monde extérieur ne suffit pas à ce qu'il puisse entrer en relation avec les autres malades. Il explique qu'il n'est en paix qu'avec le personnel, parce que celui-ci est encadré. Un autre clivage existe chez lui entre corps et esprit. Il peut méconnaître activement ses attaques contre son propre corps. Cependant, on observera que quand il est tombé malade sur un plan somatique, ses troubles psychiatriques se sont atténués. Abelli avait décrit l'amélioration pré-agonique de patients schizophrènes comme si le danger vécu dans leur corps atténuait en plantant le danger intime du vécu psychotique, la défense contre la mort venant subsidiariser la défense contre la folie. Mais au contraire de ce qui se passe dans les psychoses hallucinatoires chroniques, par exemple, chez M. B, le monde interne, le vécu hallucinatoire et délirant, et le monde extérieur, s'interpénètrent de façon instable et chaotique. Son clivage n'est fonctionnel que doublé d'une frontière concrète, hors de l'hôpital de jour, et privé de la fonction contenante de celui-ci, son existence est désorganisée. Là, les progrès obtenus pour le moment ne concernent que son acceptation des soins et aides nécessaires. Quels objectifs pour la poursuite du traitement ? Les développements précédents expliquent sans doute notre extrême prudence dans les propositions que nous pouvons lui faire, de nouveaux objets à investir, de crainte qu'il ne vienne déstabiliser gravement par l'attractivité sans fond qu'il représente, un équilibre.